projet artistique puissant et militant avec à Château Arnoux-Saint-Auban l'exposition photographique et audiovisuelle de Carole Roux et Loïc. Carole, ancienne victime de violences conjugales, qui a su mettre en lumière des femmes en reconstruction. À l'occasion du vernissage de l'exposition, rencontre avec René Villard, maire de Château Arnoux-Saint-Auban, Sébastien Gibier, chef d'escadron de gendarmerie de Digne-les-Bains, avec l'adjudante-chef Sandrine Pierre-Besse, Timothée de Montgolfier, président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, Lucille Thiébault, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité, Carole Roux, photographe, avec les témoignages également de Cathy et Solange, au micro de Chris Alessandri.
C'est avec une grande émotion et une profonde fierté que nous accueillons aujourd'hui, dans notre commune, cette exposition de photographies dédiée à la résilience des femmes victimes de violences. Ces clichés, ces regards, ces histoires racontent bien plus qu'un parcours individuel. Ils nous parlent d'un combat, universel, celui de la dignité, de la liberté et du droit fondamental de vivre sans peur. Accueillir cette exposition, c'est affirmer haut et fort que notre commune refuse l'indifférence, que la violence faite aux femmes n'a aucune place ici, et que nous voulons être collectivement un territoire de respect, d'écoute et de solidarité. Je veux rendre hommage à Carole Roux, dont le parcours force l'admiration. Vous avez su transformer la souffrance en un message d'espoir. Vos photos capturées avec un regard bienveillant par votre compagnon Loïc Cesarini parlent d'ombre et de lumière, de douleur mais aussi de renaissance. Elles nous rappellent que derrière chaque victime, il y a une femme, une mère, une amie, et qu'avec le soutien nécessaire, la vie peut reprendre le dessus. Je salue également le travail de Nathalie Zafrinski, ma conseillère municipale déléguée à l'égalité femmes et hommes et à la maltraitance, qui porte ce sujet avec conviction et humanité. Son engagement aux côtés des associations et des services municipaux permet de prévenir, d'accompagner et de soutenir celles et ceux qui en ont besoin. Notre rôle en tant qu'élu est de créer des conditions d'un échange durable, en sensibilisant, en formant, en parlant, encore et toujours. Car le silence, lui, nourrit la violence. Je veux aussi remercier toutes les personnes présentes aujourd'hui.
Alors, je suis le chef d'escadron Sébastien Gibier, je suis officier adjoint commandement du groupement des Alpes de Haute-Provence et référent violence intrafamiliale pour le groupement.
Je suis l'adjudant-chef Sandrine Pierre-Besse, je commande la maison de protection des familles à Digne.
Petite présentation sur la façon que vous avez de coordonner toute une action que vous menez.
Alors oui, il y a besoin de coordination parce qu'il y a plusieurs unités qui sont chargées de recueillir les témoignages, mais d'abord recueillir les victimes. Quand on parle de victimes, ce sont bien sûr les femmes ou les hommes, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que 15% des victimes sont des personnes masculines, mais aussi les enfants qui jusqu'ici étaient témoins, mais depuis quelques années, ils sont considérés comme co-victimes, puisque c'est un traumatisme aussi pour eux, même s'ils ne sont pas forcément directement les victimes des coups, ou du harcèlement, ou de l'oppression dont les mamans peuvent être l'objet, ou les papas dans certains cas.
Dans les actions que vous menez, il faut être perméable, certes, mais pas trop non plus. De quelle façon est-ce que vous arrivez à doser tout ça ?
Je pense qu'à un moment, soit on fait notre travail et notre cerveau, en fait, on se concentre sur les faits. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire notre travail. Mais bien évidemment que l'émotion, elle est là aussi. Hein, après les faits, après avoir fait l'audition des victimes, bien évidemment qu'on reste des êtres humains et l'émotion, elle est bien présente, quoi. Après, sur l'instant, on va être obligé de mettre tout ça de côté et on va faire notre travail.
De quelle façon est-ce que vous percevez les personnes qui viennent justement vous expliquer certains problèmes ? Est-ce qu'à un moment donné, il y a des profils types que vous classifiez ou alors chaque personne a vraiment son identité ?
Non, alors il n'y a pas forcément de profil type. Déjà, il n'y a pas de classe sociale. C'est quelque chose qui malheureusement atteint tout le monde. Du coup, non, on ne peut pas faire de profil type des personnes qui sont sous emprise ou qui sont sous le joug d'un tortionnaire. Tous les personnels sont formés par une sensibilisation à l'accueil des victimes. Tous les personnels qui font de l'accueil du public sont formés à cet accueil des victimes de violences. Plus on a la connaissance de la matière et plus on sait que la victime est dans un cycle bien défini, où il y aura des moments où elle pourra parler, et il y a des moments où elle ne pourra pas parler. Nous, il faut juste qu'on soit là pour réceptionner la parole au bon moment.
Il y a bon nombre d'actions que vous menez, sur le terrain bien sûr, et puis il y a une maison dont la porte reste ouverte.
De protection des familles.
Cette maison de protection des familles, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Comment la présenter ?
Alors la maison de protection des familles, elle a été créée en 2021 sur le département. On est compétent sur tout le département, sauf les zones police, Manosque et Digne. On accueille certaines victimes de violences intrafamiliales et on fait notamment toutes les auditions des mineurs victimes d'infractions à caractère sexuel. On a au sein de notre unité la salle Mélanie.
Commandant, ce soir une exposition superbe. Comment cela s'est mis en place et de quelle façon est-ce que vous êtes impliqué ?
Alors ça s'est mis en place grâce à des volontés locales de la mairie de Château-Arnoux et d'une de leurs élus qui a en charge cette délégation pour la lutte contre les violences faites aux femmes et l'égalité aux droits pour les femmes. Ensuite, c'est un réseau de partenaires, tout le monde va dans le même sens et ça donne un résultat tout à fait saisissant et parlant. Il n'y a pas besoin de 50 discours, on comprend tout de suite de quoi il retourne.
Je peux vous demander ce que vous éprouvez face à ces photos, qu'est-ce que vous ressentez ?
Beaucoup d'émotions, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Je suis venue d'ailleurs avant pour pouvoir les regarder tranquillement et effectivement j'éprouve beaucoup, beaucoup d'émotions.
Vous retrouvez ce que vous rencontrez sur le terrain ?
Oui, mais je retrouve des personnes qui sont passées après les violences, qui en sont sorties et qui amènent beaucoup d'espoir dans leur positionnement, dans les traits de leur visage. J'en connais certaines que j'ai rencontré tout au début de leur parcours et de les voir là aujourd'hui en photo, elles ont fait un grand, grand, grand chemin. Elles ont vraiment cheminé.
Le parcours, il est long. C'est ça aussi que ça symbolise. Les coups peuvent être rapides, brefs ou durer pendant des années, des décennies. Peu importe, c'est que l'après est toujours très long.
Carole Roux, derrière chaque photo, il y a une histoire, et derrière l'artiste, il y a également une histoire. Et toute une histoire que vous avez eu envie de montrer ce soir.
Oui, tout à fait. Alors une histoire, la mienne, c'est vrai que ça part de mon histoire, et d'une agression par un ex-conjoint, j'avais 21 ans, qui m'a laissé beaucoup de cicatrices, et des photos qui m'ont permis de réaccepter mon corps et reprendre le devant de la scène. Donc j'avais à mon tour envie de magnifier d'autres femmes, de leur dire qu'elles avaient le droit d'être là, qu'on les voit au contraire, d'où des grands formats de 1m20 sur 80, pour qu'elles soient bien visibles au contraire.
Carole, cette façon que vous avez eue de vous restructurer, elle est venue comment ? Elle est venue petit à petit, il a fallu canaliser. Est-ce que ça s'est fait tout de suite ?
Alors ça s'est pas fait tout de suite, ça a été long, les premières photos que j'ai eues de moi où j'ai eu du mal à m'accepter. Il a fallu vraiment du temps, il a fallu beaucoup de rééducation, beaucoup de thérapie, de psychothérapie, d'hypnose, plein de choses comme ça. Et il a fallu reprendre confiance en moi aussi et me réaccepter et pas cacher ce que... Voilà, comme je dis dans mon discours, j'en ai pas honte de mes cicatrices, c'est ma force. Je les aime et pour rien au monde, je les enlèverai maintenant. Mais de là à les montrer et à les accepter au regard des autres, c'était un peu différent. Donc ça a pris vraiment du temps. C'est une reconstruction et ça prend des années. Et même pour les photos, il faut faire une séance, deux séances, trois séances, quatre séances. Et après, on prend du plaisir. On s'amuse, on s'accepte, on en joue et c'est complètement différent.
Est-ce que le terme « ancienne victime de violence conjugale », ça vous va ? Est-ce qu'on peut dire « ancienne victime » ou on reste quand même quelque part dans la tête ? Peut-être « victime » quand même aussi.
Pour ma part, on peut dire « ancienne victime » parce que j'espère ne plus jamais l'être et en tout cas, j'accepterai plus jamais de l'être. Moi, j'ai été victime qu'une fois. Il y a des femmes ici qui ont été en photo, qui ont été victimes pendant 20, 30 ans, séquestrées, maltraitées. Moi, ça n'est arrivé qu'une fois. Et non, je ne serai plus jamais donc « ancienne victime », c'est beaucoup mieux pour moi.
Carole, ces personnes, vous les avez mises sous la lumière, sous les projecteurs, vous les avez mises en lumière. C'est une volonté déterminée de votre part et là, vous avez réussi.
Ben merci. Et oui, c'était vraiment de les mettre en avant, même si les photos sont sombres. Il y a une chaîne qui a un fil conducteur qui parle de l'emprise, qui parle de la libération justement de cette emprise et qui est aussi la chaîne que les aidants vont venir attraper pour aider à s'en défaire. Mais oui, c'était vraiment les mettre en lumière pour que la honte change de camp.
Derrière chaque photo, il y a une personne, il y a une vie, il y a un sourire, disait tout à l'heure le président du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains. Derrière chaque photo, il y a un peu de vous aussi, puisque c'est vous qui les mettez en scène. Comment ces personnes sont venues à vous ? De quelle façon est-ce que vous avez fait pour les amener à vous ?
Alors c'est beaucoup passé par le tissu associatif, le CIDFF, la Maison des Familles, qui m'ont parlé de victimes qui étaient passées par leur service et qui s'en étaient sorties. En me disant « Ah, je pense à elle, je pense que ça serait bien quand même, ça va clôturer sa reconstruction. » Et ça a vraiment été ça pour certaines, ça a été clôturer cet épisode de leur vie pour démarrer à nouveau sur autre chose et mettre ça derrière en fait. Donc beaucoup le bouche à oreille et les réseaux bien sûr, mais les associations énormément.
C'est un projet puissant que vous avez eu.
Ça a duré longtemps, ça fait 3 ans qu'on est dessus quand même. Donc ça a été long parce qu'il faut bien sûr acquérir de la confiance aussi et ça se gagne. Elles n'étaient pas forcément très à l'aise devant mon appareil photo et puis il a fallu du temps. C'est un projet qui n'est pas fini parce qu'en fait on voudrait qu'il soit itinérant, surtout le département, que chaque mairie, on va dire, municipalité, chaque association s'en saisisse et veuille utiliser cette expo pour la montrer aux yeux du monde. Et ensuite, on la voudrait, bien sûr, itinérante dans la France entière. Ça serait l'idéal qu'elle voyage, en fait, et qu'elle vive.
Le terme résilience, comment vous le prenez? Comment vous l'analysez à présent?
Oui, après, moi, les termes qui me conviennent le mieux, c'est plutôt la liberté, en fait. La liberté et aussi la responsabilité. La responsabilité de chacun. Des acteurs autour, des aidants, de la famille, des amis, de ne pas rester insensible, de ne pas fermer les yeux face à ça. Mais aussi la responsabilité, je pense, qu'on a toutes envers nous-mêmes et de faire le choix d'être heureuse, de faire ses propres choix de vie aussi. Et je l'ai dit dans mes, voilà, sur les petits flyers que j'ai marqués, on est aussi responsable de notre bonheur. Je pense que c'est important.
Quand on vous dit que votre exposition, elle est bouleversante, est-ce que c'est ce que vous avez envie d'entendre? Est-ce que vous la voyez comme ça, votre exposition?
Je la vois forte. Alors, bouleversante, je ne sais pas. C'est vrai que je ne l'avais pas ressentie comme ça au départ. Nous, c'est vrai qu'on voulait beaucoup montrer la force, le courage, le fait qu'il y ait un après, et puis mettre en lien les acteurs et les victimes et les aidants. Et en fait, je pense que c'est gagné aussi si elle est bouleversante, parce qu'il n'y a rien de pire que l'indifférence aussi sur une expo photo. Il faut que ça touche d'une façon ou d'une autre. Donc là, c'est gagné quand même.
Une expo à voir de 40 à 40?
Alors malheureusement, c'est fini ce soir sur Château Arnoux, parce qu'on a eu la salle que 2 jours. Mais on espère très vite pouvoir la diffuser partout. On communiquera sur les réseaux.
Je m'appelle Timothée de Montgolfier et je suis président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains et également président du conseil départemental d'accès au droit.
Je vois que vous portez beaucoup d'intérêt aux photos qui sont exposées. Qu'est-ce que cela évoque pour vous qui êtes amené à rencontrer bon nombre de personnes qui justement sont en souffrance?
Pour moi, c'est d'abord de l'émotion. Parce qu'à travers ces photos, on voit des visages, on voit une expression artistique qui montre la violence, qui montre en douceur aussi la libération, la force. Et cela montre quelque chose qu'on ne voit pas d'habitude chez les personnes, ou principalement les femmes, victimes de violences de genre. Elles sont belles, ces femmes, elles sont magnifiées, elles sont fortes. Et dans les tribunaux, tels qu'on a l'habitude de les voir, elles sont souvent encore dans la peur de leur agresseur, elles sont souvent dans la réserve. Et là, on voit qu'il y a un côté résilient derrière leur regard, derrière leur cri silencieux. Et je trouve que c'est très très beau pour un homme de loi comme moi qui voit parfois des dossiers et dès là de voir des personnes et de voir aussi l'après-procès. Ça, c'est très fort pour moi.
Je vous ai entendu dire, devant ces photos qui sont là en noir et blanc, donc qui sont parlantes, qu'on y voit même un sourire peut-être derrière.
Exactement, on voit un sourire. Et c'est là qu'intervient, je pense, la résilience. Moi, des sourires, j'en vois pas beaucoup dans les tribunaux. Parce que les sourires, en fait, il faut une reconstruction derrière. Il faut déjà la force de la victime pour pouvoir aller jusqu'au procès, dénoncer l'agresseur. Et c'est en ça qu'intervient notamment le Conseil départemental d'accès aux droits, pour aider les victimes à accéder aux droits. Et tout ça, c'est des chemins de souffrance. Et à partir du moment où il y a le procès, hein, où il peut y avoir une sanction envers l'agresseur, et ben, il peut commencer un chemin de reconstruction et de résilience. Et c'est après tout ça que commencent à revoir les sourires. Et moi, je n'ai malheureusement pas la chance de les voir. Mais ils sont beaux ces sourires, ils font du bien. Ils font du bien, ça veut dire que nous, notre action, elle n'est pas vaine, et qu'on n'est qu'un petit chaînon dans ce processus de résilience, mais c'est un chaînon qui est important, et pour arriver à voir ces femmes qui acceptent de poser devant l'objectif du photographe et de l'artiste, et ça, c'est très très beau de voir qu'elles ont cette force et ce courage, ces femmes, de poser.
Cathy, c'est toute une ambiance ici, il y a de la bonne humeur, il y a du sourire dans l'air, mais derrière tout ça, il y a un cursus qui a été sans doute très difficile et un courage exemplaire.
Ben oui, effectivement, parce que c'est très dur de parler de toutes ces violences qu'on a subies, mais il faut que ça s'arrête, il faut qu'on se livre, il faut qu'on en parle, il faut qu'on montre, et voilà, c'est très important pour que les femmes arrêtent de mourir sous les coups de leurs compagnons.
Cathy, qu'est-ce que vous auriez à dire à la Cathy que vous avez été?
Je lui dis au revoir. Je ne sais pas quoi dire, mais voilà, c'est quelqu'un que je ne connais plus.
Mais que vous aimez bien quand même.
Que j'aime bien encore, mais que j'essaie d'oublier. Voilà.
La façon de se restructurer, Cathy, ça passe par quoi? Par de la volonté, certes, par quoi encore? Quel est le circuit qu'on peut emprunter? Quels sont les conseils qu'on peut donner?
Pour moi, la parole a été très importante. J'ai beaucoup parlé, j'ai fait des conférences sur les violences conjugales. J'ai essayé d'aider toutes ces femmes, j'ai fait appel à des associations, je suis allée dans les maisons qui accueillent les femmes battues. J'ai beaucoup, beaucoup parlé. C'est ça qui m'a beaucoup aidée. Et puis voilà, après le chemin de vie fait que... Mais il faut continuer, de toute façon, il faut avancer. On a cette chance-là. On a cette chance d'être déjà en vie. Parce que c'était très compliqué à la maison, d'être en vie, d'être entourée surtout. Et donc, en fait, cette chance, il ne faut pas la laisser partir. Et il faut continuer. Voilà.
Il y a une très belle photo dans cette exposition. C'est votre visage qu'il y a dessus. Vous avez posé pour cette exposition. Ça vous a fait quoi ?
J'étais très intimidée. Voilà. Mais j'ai trouvé que le projet de Carole était fantastique. Donc, j'ai joué le jeu. J'étais pas très à l'aise, mais j'ai joué le jeu quand même.
Maintenant, de la photo, vous en pensez quoi quand vous vous voyez ? C'est vous qui êtes sur la photo ou c'est autre chose ?
Non, c'est moi. C'est moi. Voilà.
L'avenir est devant vous ?
Ah, carrément. Tout à fait. J'ai une seconde vie. Voilà, j'ai 20 ans dans ma tête maintenant parce que toutes ces années, en fait, j'ai perdu 27 ans de ma vie. Donc maintenant, j'ai 20 ans et voilà, tout va bien.
Solange, c'est un moment effectivement où il y a beaucoup d'émotions et je dirais beaucoup de joie aussi. Vous qui connaissez ce circuit qui est passé par là.
Oui, je connais ce circuit parce que je l'ai analysé. Mais pendant très très longtemps, en fait, j'étais dans un déni total. Effectivement, la difficulté, c'est de se rendre compte, d'arriver à assumer ce qui se passe. Et puis, il y a tellement de choses qu'on enfouit dans sa mémoire, dans son inconscient. C'est quand on a l'impression d'être comme dans une... On tire le fil d'une pelote de laine et puis au fur et à mesure, tout revient. Donc effectivement, après des phases qui sont difficiles, de prise de conscience, il est essentiel de faire appel à, d'être bien entouré, de faire appel à des personnes qui sont là pour nous aider. Donc la première des choses, c'est être entendu, être cru, et puis ensuite rencontrer les bonnes personnes qui nous permettent de cheminer, de se reconstruire, de parler, de porter son témoignage et de pouvoir aider un petit peu, mettre sa petite graine pour que les gens puissent prendre conscience, en fait. Il y a énormément de personnes qui sont dans le cas de toutes ces femmes qui sont là, dans cette exposition, qui, grâce à Carole, ont un peu récupéré d'elles-mêmes au fur et à mesure. C'est une petite pierre à l'édifice dans la reconstruction. Et c'est aussi... être reconnue dans un premier temps comme victime, ce qui me paraît essentiel. Mais ensuite, pouvoir au-delà de ça, ne pas s'identifier uniquement à cette période difficile de sa vie et de pouvoir continuer. Continuer et jour après jour, se battre, avoir confiance. Il y a des périodes qui continuent toujours d'être difficiles parce qu'on n'efface pas ce qui s'est passé. Mais en fait, ce qui s'est passé nous permet d'être là où on est aujourd'hui. Donc tout ça, il faut apprendre à le comprendre et puis à vivre avec.
Vous parliez du déni dans lequel vous étiez. Le déni, alors d'après vous, c'était quoi ? C'est pour excuser l'autre, s'excuser soi-même, se trouver un prétexte ?
Le déni, c'est une forme que le cerveau va avoir de se protéger parce que ce qu'on vit est trop dur. Donc ça permet juste d'être en survie et de pouvoir jour après jour affronter les choses devant la dureté des faits, devant ce qui est inconcevable, en fait, ce qui n'est pas acceptable, c'est tout simplement pouvoir survivre et continuer d'avancer malgré tout, parce que c'est trop dur. Sinon, on en meurt. Et le fait d'ouvrir ça, en fait, c'est très compliqué parce que chaque femme a son propre parcours, sa propre expérience. Il y a tellement de formes de maltraitance différentes. Et effectivement, on arrive, il y a des choses qui vont nous apparaître, mais qui sont que l'arbre qui cache la forêt. Donc au fur et à mesure, c'est cette découverte. Il y a beaucoup de honte aussi. Il y a une culpabilité énorme qui déjà est initiée par le maltraitant. Il faut se rendre compte que ce qu'on vit, c'est pas une vue de l'esprit. Et puis c'est replacer les faits dans le bon sens, voir les choses, remettre les choses à leur place. Inverser la façon qu'on a de voir, parce qu'en fait on est tellement dans une phase où on est dans le déni, mais on est aveuglé. On n'est plus du tout en capacité de réfléchir, on est décérébré. L'emprise dont on peut être victime ne permet pas de faire ce travail-là. Il faut être complètement en dehors du système habituel, en prenant beaucoup de distance, aussi bien physique qu'intellectuelle, pour remettre les choses à leur place et de faire ce travail de grand ménage. Et ça, il faut être très très bien entouré pour pouvoir le faire. Et quand on est dans le quotidien, quand on est incessamment soumise à des injonctions paradoxales, on n'est pas en capacité intellectuelle de se rebiffer. On est tellement déjà complètement vidé de toute personnalité, vidé de réflexion. On fait les choses uniquement pour pouvoir répondre à ce qu'on attend de nous. Et en fait, l'horizon toujours, une fois que les choses ont été, qu'on a répondu à certaines demandes, les demandes sont toujours beaucoup plus fortes, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus loin. L'horizon toujours progresse et on n'arrive jamais à satisfaire la personne qui est en face de nous. Donc il y a une destruction et à la fin, même la personne n'a plus besoin de dire. Il y a un engrenage et on ne peut faire face à aucune des demandes. Et quand même les demandes, quand même, sont atteintes, c'est jamais assez. Donc en fait, il y a une espèce de grignotage de la personnalité. Et Grégory Lemarchal avait une chanson qui disait « Ton territoire si loin sur le mien ». Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. On ne réfléchit plus, on ne pense plus, on fait comme l'autre, on vit par l'autre. On n'est même plus un objet, parce qu'à la limite, un objet, on fait encore la poussière dessus. Mais là, on n'a plus d'existence. Et c'est très, très difficile. Quand on prend conscience de ça, en fait, même la prise de conscience peut détruire plus que ce qu'on est détruite. Donc, il faut beaucoup de temps, beaucoup de bienveillance et être là avec des gens qui sont là autour de nous, qui nous croient.
Solange, quel regard vous portez sur la Solange qui est en photo là, dans l'exposition? Comment vous la regardez?
Elle force mon admiration, déjà. Et au-delà de la Solange qui est là, celle que j'ai moi en mémoire, en visuel, c'est la photo de la Solange le jour de son mariage. Et ce que j'ai envie de lui dire, c'est surtout ne te perds pas de vue. Et c'est ce que j'ai envie de dire à toutes les femmes. Ne vous perdez pas de vue. Mettez les limites très tôt. Ayez confiance en vous. Écoutez-vous. Et tant pis, il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Voilà. Et puis j'aimerais juste rajouter une chose, c'est qu'on parle beaucoup des femmes, des féminicides. Donc là, on est, je crois cette année, on est à plus de 140 là, pour le moment, pour les chiffres de 2025. Ce que j'aimerais surtout indiquer, c'est qu'au-delà des féminicides, il y a ce qu'on appelle maintenant le suicide forcé, qui est reconnu par la loi depuis début novembre 2025, qui est une circonstance aggravante pour les auteurs des faits. Et en fait, c'est quand la victime, en fait, pour cesser la maltraitance qu'elle subit, met elle-même fin à ses jours. Donc là, à ce moment-là, il faut considérer que sur la France, l'année dernière, il y a plus de 900 personnes qui ont fait des tentatives de suicide et qui se sont suicidées. Donc ce qui, par rapport à la grosse centaine de féminicides, on peut multiplier par 3 le nombre de personnes, en fait, victimes de maltraitance en France.
C'est une manipulation?
C'est la manipulation, c'est-à-dire que la personne vit tellement l'enfer que la seule façon qu'elle a pour elle de sortir de cette difficulté, c'est de passer à l'acte.
En culpabilisant?
C'est pas la culpabilité qui lui permet de passer à l'acte. C'est le harcèlement ou la maltraitance qu'elle subit tous les jours, qu'elle soit physique ou psychologique. Souffrance. La souffrance est tellement intense que le seul issue pour elle, c'est le passage à l'acte et au suicide.
Lucille Thiébaud, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes.
En tant que déléguée, qu'est-ce que vous pensez de cette exposition? Comment vous l'avez ressentie? Visiblement, il y a beaucoup d'émotions, mais plus que ça encore, il y a vraiment un message qui est passé ce soir.
Ah, c'est une soirée assez incroyable parce qu'il y a une mobilisation déjà d'une mairie, de partenaires et surtout de femmes du territoire qui, à travers l'art de la photo, montrent comment on peut se reconstruire, toujours être debout et la question de la résilience. Et le témoignage de Carole Roux, qui est à l'origine de ce projet, qui a été elle-même victime, il est incroyablement fort. Et en plus, voilà, on voit qu'à l'époque, ça a eu une répercussion nationale, sa tentative de féminicide, et que quelques années plus tard, ça ressorte à travers cette exposition. Je pense que tout le territoire est extrêmement touché par cette exposition photo.
Vous êtes bien sûr très averti de tout ce qui peut se passer dans un couple. De quelle façon est-ce que vous pouvez orienter certaines personnes qui souffrent?
Moi, à noter qu'en tant que déléguée aux droits des femmes, je ne suis pas en contact directement avec les victimes, je travaille avec les associations. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en effet, c'est un sujet extrêmement extrêmement complexes qui nécessitent de la formation, de la compréhension et de la part des proches, c'est aussi compliqué à comprendre. C'est-à-dire que la victime elle-même a du mal à comprendre, identifier dans quel mécanisme elle est et ses proches également et les témoins aussi. Donc qu'est-ce que je peux conseiller ? Eh ben, c'est se renseigner. Le 3919, c'est un numéro de téléphone qu'on peut appeler qu'on soit victime, témoin ou proche. Parce qu'on se pose des questions. Il y a quelque chose, il y a un rapport dans un couple qui n'est pas OK. On a une copine, on essaie de lui parler. Des fois, elle nous dit des choses et puis elle revient sur ce qu'elle a dit en disant « Oh non, ça va mieux. » Ben, ça, c'est déjà un signe d'alerte. Ne pas hésiter à appeler le 3919 qui va demander conseil, qui va vous orienter. Et après, ne pas culpabiliser la personne, la victime. Il faut l'accompagner. On sait qu'une femme, elle fait 7 allers-retours avant de quitter son compagnon violent. C'est un processus qui est long, de prise de conscience. Surtout pas culpabiliser, accompagner avec beaucoup de bienveillance et toujours être à l'écoute.
Est-ce qu'il y a des signes extérieurs qui peuvent traduire justement ce malaise, cette souffrance de la part d'une personne ?
La question des violences faites aux femmes et des violences dans le couple, elle vient de la violence ordinaire. Et donc, ces signes de violence, des signes de sexisme, de blagues répétées, de gêne. À partir du moment où il y a une situation entre amis qui nous gêne en disant « là, c'est pas OK, comment il lui parle ?» et puis c'est répété. Faut imaginer que en fait, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg et que derrière, il peut y avoir des choses bien pires. Et que des auteurs de violences peuvent être des personnes bien sous tout rapport, qui peuvent être des personnes incroyables. Et pourtant, dans les réalités du couple, c'est pas du tout la même chose. Donc en effet, il faut être à l'écoute de ces réactions qui nous semblent la dévalorisation, les blagues, l'humiliation, des situations qui ne sont pas normales quand on est censé aimer quelqu'un et qui doivent nous alerter pour ensuite questionner la personne qui serait victime et pouvoir l'aider à libérer la parole pour pouvoir l'accompagner. Mais c'est un processus qui est très long et comme je vous disais souvent, les victimes vont dire vont parler puis après vont dire non mais ça va beaucoup mieux. Parce qu'en fait, les violences dans le conjugal sont un cycle. Il y a le cycle des violences avec à la fin une lune de miel. Et pourquoi les femmes restent ? C'est parce qu'il y a de l'amour et il y a plein de signes qui lui montrent qui lui donne envie de rester. Et en fait, ça lui fait oublier la violence, avec tout un mécanisme de mémoire amnésique. Donc en fait, c'est des mécanismes qui sont extrêmement complexes. Et si, comme dans la chanson tout à l'heure de la danse, l'homme était toujours violent, la femme partirait, ce serait trop visible. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus caché et insidieux.
Pour les personnes qui nous écoutent, qui auraient besoin de conseils ou de renseignements, de quelle façon vous contacter ?
Alors, il y a les sites déjà nationaux, arrêtonslesviolences.gouv.fr. Sur ce site, il y a plein de ressources. Il y a même un chat en ligne avec un gendarme ou un policier qui peut répondre, qui est formé, qui peut vous conseiller. La question du numéro de téléphone 3919. Après, il y a toutes les associations locales. Sur notre territoire des Alpes de Haute-Provence, on a le CIDFF, le Centre d'information des droits des femmes et des familles, qui peut vous accueillir, vous écouter et vous accompagner. Il y a aussi l'association France Victimes. Et puis après, en cas d'urgence, naturellement, ne jamais hésiter à contacter les forces de l'ordre avec le 17.
René Villard, une superbe exposition, un moment émouvant et puis un message peut-être à faire passer aussi, monsieur le maire.
Oui, je crois que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, sur le département, on est la seule commune à avoir, je veux dire, un adjoint qui s'occupe de ce problème des femmes violentées. Je crois qu'il est important que toutes les communes fassent la même démarche que Château-Arnoux-Saint-Aubin pour que les femmes soient représentées dignement. Voilà, par rapport à tout ce qui se passe, on peut être satisfait que je crois qu'aujourd'hui, avec les nouvelles élections, peut-être qu'il va y avoir un changement aussi, que ça va pouvoir le faire et que chacun va se sentir investi de ce problème.
René Villard, vous avez eu des témoignages très émouvants là, qui vous ont été portés tout à l'heure.
Je crois qu'il y a eu des moments très, très, très difficiles à entendre, parce que chacun s'exprime et c'est compliqué d'entendre des choses par rapport au féminicide qui font que toutes ces femmes qui sont agressées, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, on peut être qu'inquiet de ce qui se passe au niveau national et partout, même sur notre commune, malheureusement, il y en a aussi. Et donc, on ne peut que déplorer ça et qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à inverser cette tendance et que chacun retrouve un peu son calme et sa dignité.
Vous pensez quoi de l'exposition des photos ?
Je crois qu'il y a une exposition qui est extraordinaire. Je crois que les photos parlent d'elles-mêmes et c'est important. Les photos transmettent un message fort. Et je crois que tous les gens qui étaient là ce soir, je pense qu'ils vont tous repartir avec quelque chose dans la tête.